France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancos.
Ce furent les attentats les plus meurtriers perpétrés en France. Dans quelques jours, nous célébrerons un triste anniversaire. Le 13 novembre, cela fera 10 ans que plus de 130 personnes moururent sous les balles de l'organisation terroriste État islamique Daesh. Fusillades et attaques suicides se succédèrent aux abords du Stade de France à 21h20, à des terrasses de cafés et de restaurants aux alentours de 21h25, puis au Bataclan dès 21h40, salle qui programmait un groupe américain de rock, les Eagles of Death Metal. Un bilan effroyable, des milliers de victimes mortes, blessées, traumatisées et des proches à jamais marqués. Parmi ces victimes, une femme. Elle se rendait au concert avec son compagnon, Mathieu Hoche. Il n'en reviendra pas. Elle se bat depuis 10 ans pour se reconstruire. 56 opérations aujourd'hui, de nouvelles programmées dans les mois à venir. Elle est avec nous aujourd'hui. Gaëlle, bonjour.
Bonjour, Aïna.
Merci infiniment de venir témoigner et faire cela notamment pour les victimes, pour toutes celles qui ne parleront plus, toutes celles qui sont traumatisées. Vous avez aujourd'hui 44 ans, un garçon qui aura bientôt 18 ans. Je vous connais depuis des années, on vous suit dans vos interventions, un combat qui n'est pas terminé, on va en parler. Alors vous, je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes courageuse, donc je ne le dirai pas. Je dirais que vous ne lâchez rien. Mais j'aimerais juste avoir votre premier sentiment si je vous demande simplement... Comment diriez-vous que vous allez aujourd'hui ?
Ben depuis qu'on s'est connus, en 2017, effectivement, ça commence à dater. Heureusement, ça va mieux, mais je suis toujours en parcours de soins. Donc,
Je disais, 56 opérations, mm-hmm. La prochaine est programmée quand ?
Eh bien, si mon état se stabilise d'ici Noël, on repartira pour janvier.
Vous avez été blessé à la mâchoire et au bras gauche, hein, vous allez nous raconter ça, mais on va partir du début. Et je vous remercie encore une fois d'accepter de vous replonger dans ces souvenirs pour nous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière le mot « victime ». Le 13 novembre, donc, vous décidez d'aller au Bataclan, vous laissez votre petit garçon à vos parents, vous rejoignez votre compagnon Mathieu. Vous arrivez un petit peu en retard, le concert était déjà commencé, c'est ça ?
Oui, effectivement, nous, on quittait le travail, on a déposé nos fils respectifs, lui chez la maman de son fils, moi chez mes parents. Et jusqu'au dernier moment, en fait, on a failli annuler, mais on a vraiment tout fait pour y aller. Mais quand on est arrivé, c'était commencé, il y avait une très belle ambiance et voilà.
Et donc, vous prenez un verre, vous êtes donc à l'intérieur. Ça a été quoi le premier bruit qui vous a alerté ?
Eh bien, effectivement, on a à peine eu le temps de se rapprocher du bar. On était encore dans l'entrée et ça a été des énormes pétards, comme une déflagration, des tirs, voilà. Et puis après, un mouvement de foule qui nous a tous fait tomber au sol. Certains ont réussi à s'échapper. Mais oui, une énorme pétarade, un bruit très... Très soudain.
Mais entre des feux d'artifice et un attentat terroriste, vous avez compris quand ce qui se passait en fait ?
J'ai compris quand, au sol en fait, quelques secondes ou une minute, j'en sais rien, c'est impossible à quantifier. J'ai ouvert les yeux et j'avais un terroriste qui m'enjambait et qui tirait sur la foule. Et ils ont commencé à dire qu'ils venaient venger leurs frères de Syrie, que s'ils étaient là, c'était à cause de François Hollande, etc., etc. Donc j'ai malheureusement trop vite compris dans quoi j'étais prise. Mais on a été pris.
Donc vous étiez pris effectivement un acte terroriste, mais vous aviez réalisé en même temps que vous étiez si grièvement blessée ?
Bah oui, parce qu'au moment où j'ai rebougé, le truc c'est que, comme tout le monde, j'ai fait la morte, d'autant plus que j'étais à ses pieds. Mon état a dû parler lui-même, parce que j'ai été grièvement blessée au visage et au bras, donc je pense qu'il me pensait, morte. Mais en tout cas, moi j'ai fait la morte, et puis quand il a commencé, un de ces trois-là a commencé, lui il a progressé dans la salle. Et avec mon bras droit, j'ai touché mon visage et c'est là que je me suis rendu compte que il manquait toute une partie de mon visage. Et en regardant mon bras gauche, j'ai vu qu'il était touché aussi.
C'est très étonnant parce que quand vous décrivez ça, c'est parce que vous avez touché que vous avez réalisé cette gravité. Ça ne fait pas, vous souffriez pas énormément. C'était sidéré. C'était quoi ?
En fait, le principal souvenir que j'en ai de cette sensation, tout est un peu dans le sensoriel, parce qu'entre l'état dissociatif et ce que ressent le corps, moi j'avais une sensation extrême de froid glacial, comme si j'étais nue dans la neige. C'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. Et les médecins m'ont expliqué que quand le corps atteint un niveau de souffrance, c'est comme s'il y avait un bouton on-off, c'est-à-dire il coupe. Donc quelque part,
ne pas devenir fou,
la
en fait,
nature est bien faite. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis après, au fil des heures, voilà, le corps parle autrement. C'est-à-dire, moi, j'étais j'étais dissociée, quoi. J'avais l'hallucination de mon fils. Enfin, j'ai plein de choses bizarres qui se sont passées.
Vous avez cherché votre compagnon à ce moment-là? Vous regardiez autour de vous?
Ouais, il était juste à côté de moi et pareil, mon cerveau était persuadé que il faisait le mort et en fait, je comprends par la suite que malheureusement, c'était pas une simulation.
Comment vous avez trouvé cette force, cette présence d'esprit de faire la morte, comme vous dites? Votre fils vous a aidé à ce moment-là, la pensée de votre fils?
Exactement, c'est un truc un peu, il y a à la fois l'instinct de survie, mais il y a bizarrement, comme dans les films, une image de lui physique, enfin une hallucination visuelle qui est arrivée très vite, et puis j'ai entamé un dialogue avec lui. Ça paraît un peu fou, mais je pense que voilà, j'étais en train de partir, et puis on parle du tunnel, du trou noir, de sa vie qui défile. Donc il y avait ça, et en parallèle, mon petit garçon qui était debout devant moi en disant « Mais maman, faut que tu sortes ». Bon, en plus, j'étais persuadée que tout allait sauter parce que je savais qu'ils étaient surarmés avec des gilets explosifs. Et donc j'étais persuadée que voilà, donc j'ai mis un peu plus de 2h30 à essayer de me dégager de ça. Et
vous avez été extraite de la salle, emmenée en termes de guerre, en centre de triage dans un restaurant voisin, puis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, bilan donc très grave, une balle de Kalachnikov dans le bras gauche, une dans la mâchoire. Ce sont des balles, les Kalachnikov, très particulières, parce que ça détruit absolument tous les tissus que ça traverse. Et d'emblée, vous allez être opérée deux fois cette nuit-là?
Oui, c'est ça. Effectivement, ce sont des balles très spécifiques, puisque contrairement à, je sais pas, une balle de fusil de chasse, ça explose dans le corps, donc c'est là toute la difficulté de la réparation physique. Et le vrai enjeu chirurgical, je sais plus quel...
Vous étiez en fait une véritable gueule cassée de la guerre. Ça correspondait
ça.
À des blessures, des gueules cassées.
Les chirurgiens m'ont dit à mon réveil, c'est-à-dire que, on dit, il y a des techniques pour réparer les visages.
Qui sont les techniques mises au point au moment de la guerre.
Exactement. Donc, on m'a dit, vous êtes une gueule cassée. Donc, c'est un peu ça le point de départ. C'est un peu ça qu'on retient dans ce combat-là. Donc, c'est très particulier parce que c'est aussi là que j'ai vraiment compris que j'étais dans une blessure de guerre.
À votre réveil.
Voilà, non seulement par le contexte de l'attentat, mais par les mots des chirurgiens.
C'est là que vous avez appris la mort de votre compagnon?
Oui, je pense que mon cerveau l'a compris aussi quand ses parents sont venus me voir à l'hôpital et que voilà, par différents canaux, on va dire, voilà, on m'a dit que Mathieu n'était pas à mes côtés à l'hôpital et voilà, on a commencé à me parler de sa date d'enterrement, enfin des trucs complètement irréels et du coup. On pense que c'est un cauchemar et qu'on va bientôt se réveiller.
Et quand on se réveille, c'est toujours là.
Exactement.
Pour vous redonner un visage, on a remplacé votre mâchoire par un os de la jambe qui s'appelle le péroné. On a pris également de la chair de votre jambe pour reconstituer ce visage. C'était en janvier 2016. Quand est-ce que vous avez pu revoir votre visage pour la première fois après les attentats? À quel moment? Et ça s'est passé comment?
Alors, c'était à l'hôpital. Pardon, c'était, je pense, une dizaine de jours après. J'étais alitée, mais à un moment donné, j'ai demandé de tricher un peu et d'aller aux toilettes dans ma salle de bain de la Pitié-Salpêtrière.
C'était l'intention de vous regarder ou c'était pas...
Oui, j'avais besoin de au-delà de toucher avec ma main et de ressentir à travers les pansements et tout le dispositif qu'ils m'avaient apposé. Sauf que je pensais pas qu'ils avaient scotché des champs opératoires sur le miroir de la salle de bain. Voilà. Donc du coup, j'ai tout arraché et c'est là que j'ai vraiment pris conscience des dégâts. Je pensais pas que c'était aussi grave, même si je le sentais dans mon corps, mais les sensations sont jamais... Il y a toujours un décalage, mais là j'ai vraiment vu qu'il manquait la partie gauche de mon visage, je voyais ma langue, j'avais plus de joue du tout. Et ils avaient commencé à réparer tout ça.
On mesure très mal tout le chemin à parcourir. On a l'impression qu'une fois que les opérations sont faites, on passe à la rééducation. En fait, ça a été très long pour rien que reparler, remanger, déglutir, sourire, tout ça, c'est un parcours très long.
Ben voilà, c'est petite touche par petite touche. Effectivement, le gros point de départ, c'était le lambeau de Perronnet que j'ai eu au niveau de la mandibule en janvier 2016. Donc c'était là tout l'enjeu, on n'était pas sûr que ça marche. Il y a eu tout un temps déjà de prise de greffe et après des dizaines et des dizaines d'interventions, des reprises de greffe, des transferts de muscles, au début, pendant 3 ans, j'étais tête baissée dans ce rythme opératoire à peu près tous les 2 mois. Mais ce qui était particulier, c'est que j'avais en parallèle mon bras gauche qui était dans une, enfin d'abord avec un fixateur externe dans une coque, etc.
Donc en plus parce que vous êtes gauchère.
Ouais, c'était mon bras directeur, donc il fallait en parallèle que je réapprenne tous les gestes du quotidien ou que j'adapte en tout cas sur mon bras droit des choses toutes bêtes, se passer un gant sur le visage, attacher les cheveux, enfin voilà.
Et un bras qui a été reconstitué notamment avec les os du bassin.
Exactement, avec les crêtes iliaques à plusieurs reprises et qui aujourd'hui tient avec une plaque qui était pas censée rester toute ma vie dans mon bras, mais elle est là et elle a l'air de tenir correctement.
Donc on va la laisser.
Voilà, et puis j'ai gardé mon bras, donc c'était aussi il n'était pas sûr de rester, donc j'y tiens beaucoup.
Je disais 56 opérations aujourd'hui. On vous dit quoi? Que ça va continuer toute votre vie, ces opérations? Ou que c'est vraiment qu'il va y avoir un moment où on va s'arrêter parce que la partie sera gagnée? Ou ça, ils n'en savent rien?
Eh bien, on m'a fait comprendre que j'allais être opérée toute ma vie. Bien sûr, le plus gros du travail est fait, mais depuis 2018, en fait, j'ai que des complications à chaque bloc. J'ai beaucoup d'infections, enfin de problèmes sur les greffes osseuses. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui tient, les implants ne tiennent pas. Donc, on a l'impression que le pare-choc est là, mais que le tuning, si j'ose dire, est compliqué. Enfin, en interne, c'est très complexe. Et c'est pour ça que ça dure autant, parce qu'à la base, on m'avait dit qu'il fallait à peu près 2 ans, mais on en est encore loin du compte, notamment en termes de prothèses, etc.
Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, nos auditeurs, j'ai encore les mauvaises habitudes à la télévision. Vous êtes gênée pour quoi aujourd'hui, au niveau du bras et au niveau du visage?
Voilà, au niveau de la face, en fait, en interne, l'os qui a été greffé, donc mon péroné qui fait aujourd'hui office de mâchoire, est pas du tout heureux de vivre en bouche, parce que c'est pas sa fonction principale, donc il a acquis certaines fonctions, mais tout ce qui est mastication, etc., aujourd'hui, je dois manger très délicatement, alors plus liquide, je contourne un peu le problème, mais j'ai perdu toute ma dentition en haut et en bas à gauche, et aujourd'hui, il n'y a rien qui tient, et c'est ce travail, au-delà de toute la chirurgie esthétique de reconstruction, travail tout à fait fonctionnel, c'est ça qui est le plus important pour moi.
Et au niveau du bras?
Et au niveau du bras, j'ai perdu la supination, donc ce qui est la rotation du coude. Donc voilà, il est très fragile, donc je ne peux pas porter de choses lourdes, des choses comme ça. Mais pour avoir beaucoup travaillé avec les ergothérapeutes en centre de rééducation, j'ai adapté un certain nombre de choses pour faire en sorte de pallier, de faire correctement les gestes du quotidien et de vivre avec. En fait, on apprend à vivre avec.
Il n'y a pas que les séquelles physiques, bien sûr, il y a les séquelles psychologiques, on va en parler tout de suite, mais juste un petit mot sur le fait que donc vous n'êtes pas consolidé, et que c'est important, même si ça semble trivial, de parler d'argent dans ce catastrophe que vous avez traversée. Mais en fait, ça fait 10 ans que vous ne travaillez pas, et que du coup, vous n'êtes pas consolidé, donc pas complètement indemnisé.
Oui, je suis pas consolidée parce que je passe régulièrement au bloc opératoire, entre 2 et 4 mois en ce moment. Et la loi française dit que tant qu'on n'est pas consolidé, on n'est pas indemnisé. Donc typiquement, on parlait de mon bras gauche, il ne sera plus opéré parce qu'on peut plus le toucher, il est trop fragile, donc il a été acté consolidé. Mais pour ce qui est de mon visage, de la face, comme disent les maxillos, c'est très compliqué de le consolider puisque c'est en perpétuel chantier, on va dire, en service après-vente. Du coup, c'est un chemin médico-juridique très délicat et très complexe. Mais là, voilà, la loi s'adapte. Mais c'est des choses auxquelles je ne pensais pas du tout au début, et ça fait partie du combat.
Les séquelles psychologiques, parlons-en, cette scène du 13 novembre, est-ce que vous la revivez encore? Est-ce que la nuit, ça revient? Est-ce qu'il y a des bruits qui vous font sursauter aujourd'hui?
Oui, j'ai clairement une hypervigilance, mais là encore, c'est pas qu'on n'y fait pas attention, mais je sursaute à la moindre sirène de police ou de SAMU dans Paris. Je suis... Lorsque je vais dans un lieu public, j'ai tendance à repérer tout de suite la sortie de secours, etc. Des choses comme ça, ou à pas me mettre de dos quand je vais boire un café à une terrasse ou un verre. Donc ça, c'est vraiment l'hypervigilance. Pour ce qui est des cauchemars, c'est par période. Heureusement, c'est plus toutes les nuits aussi, de façon aussi intense. Voilà, il y a des médicaments qui aident aussi à prendre du recul, si j'ose dire, mais je crois que c'est quelque chose qui est impossible à oublier.
Vous avez mis du temps à retourner à une terrasse, vous installer en terrasse justement, mais également retourner au Bataclan dans une salle de spectacle.
Alors j'y suis retournée dans le Bataclan. En fait, ils ont rouvert les portes après les travaux et ouvert aux familles pour aller se recueillir. Donc j'y suis allée dans un premier temps dans ce contexte-là. Et dans un deuxième temps, avec mon fils, à une battle de hip-hop, parce que je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais j'avais vraiment besoin déjà de dédramatiser cette histoire-là dans cette tête de jeune enfant, et qu'il voit que c'était vraiment un endroit de vie et de fête, et pas que dans son esprit, voilà, il continue à s'imaginer des choses. Je voulais qu'il voit quelque chose. Un endroit voilà de vie et de fête. Et il aimait bien le hip-hop quand il était petit, donc j'en ai profité. Voilà, c'était une opportunité. Maintenant, ni lui ni moi faisons en sorte. Voilà, c'est pas un endroit où je vais régulièrement écouter des concerts, et je m'en préserve.
On va essayer de comprendre vos sentiments durant toutes ces années aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute Antoine Léris, qui a perdu sa femme au Bataclan. Il avait écrit une lettre, Vous n'aurez pas ma haine. Il s'en expliquait sur France 5 dans C'est à vous. C'était 4 jours après l'attentat. Écoutez-le.
Je voudrais resituer les choses pour dire que je suis pas un exemple, je suis pas un être formidable, et que certainement que demain, après-demain ou le jour d'après, peut-être que la colère remontera, peut-être qu'il y aura des moments où je regarderai mes concitoyens d'un air méfiant, peut-être qu'il y aura des moments où j'aurai peur, mais j'ai écrit cette lettre aussi pour m'empêcher de céder à ça, pour dire à mon fils et me dire à moi-même, il s'est passé ce qui s'est passé, on sera tristes tous les deux toute notre vie, une part de moi est morte avec elle, mais on se laissera pas faire. Et on n'a pas le droit parce que, voilà, cette lettre, elle est là, les mots, ils sont là. On n'a pas le droit de céder à ça. Parce que si je laisse grandir mon fils avec le ressentiment qui pourrait être le mien, il deviendra exactement ce que sont ces gens-là. Des gens qui sont pleins de haine, des gens qui n'ont pas envie de voir le monde autrement que par sa face la plus sombre, qui n'ont pas envie de voir ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est-à-dire la musique, la culture, la littérature, le cinéma, s'aimer, boire un verre en terrasse.
Il y a eu de la haine chez vous? Est-ce qu'il y en a encore éventuellement?
La haine, non, moi la haine me paralyse, mais c'est très juste ce que dit Antoine. J'ai eu énormément, je dirais, plus de la colère, de l'incompréhension, ça, clairement, et beaucoup de tristesse. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de céder à la haine, parce que c'est déjà ce qu'ils attendent dans leur but premier, et c'est en tout cas moi pas ce qui m'anime.
Durant toutes ces années, il y a eu notamment le procès, hein, très médiatisé. Votre témoignage, d'après tous les observateurs, a été un grand moment de dignité, mais d'émotion extrême. C'était difficile d'aller témoigner, vous l'avez fait pourquoi ?
Eh bien, j'ai hésité déjà vraiment longtemps à y aller, pensant vraiment que ça n'allait rien changer. Et pour moi, et pour... ça n'allait pas faire revenir les défunts. Et voilà, moi j'ai vraiment mis ça de côté jusqu'à la veille au soir où mon avocate m'avait dit « Mais vous pouvez vous positionner et puis annuler au dernier moment ». Le matin même, je me rappelle, c'était le jeudi 7 octobre, j'ai décidé d'y aller. Et elle m'avait dit, qu'est-ce qu'il faut préparer Est-ce que j'écris quelque chose ? Elle me dit, mais non, mais vous avez suffisamment de choses à expliquer, mais bon, je me voyais pas à la barre devant 250 magistrats, des milliers de parties civiles, les 14 accusés, et voilà, c'était très compliqué. Et puis finalement, la veille au soir, j'ai écrit. Je me suis laissée surprendre par ces mots qui sortaient là et que je posais sur le papier. J'ai tout simplement fermé cette feuille, je l'ai mis dans mon sac le lendemain matin et je suis allée un peu en mode automatique à cette barre. Et puis j'y ai déposé quelque chose de voilà qui venait du fond de moi et j'ai mesuré à quel point ensuite ça m'avait allégé d'un poids vraiment voilà c'était très cathartique au-delà du fait de ces audiences qui s'enchaînaient et de tout ce qui se tissait entre les personnes qui avaient vécu ça hein, que ce soit les victimes directes indirectes les soignants qui ont témoigné les forces de l'ordre enfin c'était vraiment tout le monde qui rassemblait son puzzle autour de ce procès et ça a été une étape essentielle. Ouais, dans la reconstruction.
Donc il y a eu le procès, il y a aussi les commémorations chaque année. Vous faites quoi à ce moment-là ? C'est compliqué à vivre ? Vous êtes dans une posture plutôt d'aller vers la vie ? Vous faites quoi ?
Toujours, j'essaye. C'est important pour moi, autant certaines personnes sont en vrai retrait. Ce jour-là, moi j'ai un peu comme une communion, j'ai besoin d'être sur les lieux avec les autres. Donc souvent, alors cette année ce sera un peu différent, mais il y a un temps devant le Bataclan, un temps très simple, très sobre, où on est tous ensemble devant le Bataclan et où le nom de chacun des défunts est cité. Et cette année, il y aura un programme un peu particulier dans le cadre des 10 ans, notamment au Jardin Mémoriel.
Qui est près de l'hôtel de ville.
Exactement, à l'arrière de l'hôtel de ville, place Gervais, Saint-Gervais, où voilà, il y a beaucoup de choses qui seront faites dans le cadre de cette commémoration des 10 ans. Avec, voilà, il y aura Emmanuel Macron et le cercle des proches directs qui seront sur place aussi.
Vous avez eu besoin, ou simplement ça s'est passé comme ça, de nouer des liens avec des victimes ? Vous faites partie d'associations ?
Je fais partie de différentes associations, notamment de l'association 13-11-15, Fraternité et Vérité. Il y en a deux, il y a également Life for Paris, après ça s'est un peu présenté comme ça pour moi. Mais je suis très proche des deux entités, qui d'ailleurs devraient être qu'une, mais bon, ça c'est voilà le milieu associatif. Voilà. Moi je fais partie d'autres associations, je suis bénévole chez Comme les Autres et Wake Up Café dans un autre cadre. Mais ça s'est fait naturellement de se lier aux autres victimes, parce que même bien avant le procès, même à l'hôpital finalement, les premiers liens se tissent. Et puis entre les groupes Facebook, que je suivais beaucoup quand j'étais alitée, parce que c'était ma seule connexion à eux. Et puis après, il y a souvent des projets associatifs. Au-delà des commémorations, il y a plein de choses qui sont faites autour du 13 et où de temps en temps j'allais. Et puis, ma mine de rien, en 10 ans, les liens se tissent. Et puis, les personnes avec qui, de toute façon, je serais, par la force de la vie, devenue amie. Voilà.
Je voudrais qu'on termine en parlant de votre fils. D'abord, on va écouter la chronique science d'Alexandra Delpeau qui aujourd'hui s'intéresse à une découverte inattendue. Les vaccins à ARN messager, notamment celui contre la Covid-19, boosteraient l'efficacité des immunothérapies. Écoutez.
Et si le vaccin du SARS-CoV-2 renforçait l'efficacité des immunothérapies contre le cancer ? Les immunothérapies font aujourd'hui partie des 4 grands piliers du traitement contre le cancer, avec la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais leur principe est totalement différent. On ne s'attaque pas directement à la tumeur, on cherche à réveiller le système immunitaire pour qu'il la reconnaisse et l'élimine par lui-même. Les premiers traitements de ce type, ce sont les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, des anticorps qui retirent les freins du système immunitaire. Ils portent des noms comme CTLA-4 ou PD-1 et depuis leur développement dans les années 2000, ils ont révolutionné la prise en charge de certains cancers. Caroline Robert est dermato-oncologue, chef de service de dermatologie à Gustave Roussy et chercheuse à l'INSERM.
Ça a changé la phase du traitement du cancer. Moi, je connais particulièrement le mélanome. Ça a été le pionnier des cancers qui a pu bénéficier de l'immunothérapie. C'est un cancer qu'on ne savait pas soigner autrefois hein, quand il était métastatique. Et avec les inhibiteurs de points de contrôle, on a maintenant, avec les meilleurs traitements, on combine en général 2 anticorps. On a un peu plus de 50% de réponse. Hein, réponse, ça veut dire que les cancers diminuent en taille de façon significative. On les voit au scanner qui fondent. Et puis, on a même, dans un certain nombre de cas, malheureusement, on aimerait que ce soit plus fréquent, 15% des cas, à peu près, on a une disparition totale de toutes les métastases. Et on peut même arrêter le traitement chez certains patients. Et les chiffres, ils sont très remarquables puisque on trouve à 10 ans qu'il y a à peu près la moitié des patients qui sont encore en vie. Alors on va dire que c'est pas assez parce qu'on aimerait qu'ils soient tous en vie, mais il faut rappeler que avant ces traitements, à un an, on avait moins de 10% des patients qui étaient en vie.
Tous les patients et patientes ne sont pas sensibles à ce traitement. Certains cancers y résistent, notamment quand il y a peu de cellules immunitaires dans la tumeur ou qu'elles ne peuvent pas se faufiler dans l'organe, comme c'est le cas de certains cancers cérébraux. L'enjeu central de la recherche sur ces immunothérapies maintenant, c'est de trouver le moyen de mieux activer le système immunitaire. Et c'est dans ce cadre que cette nouvelle étude parue dans Nature a fait une découverte assez étonnante, une corrélation entre le statut vaccinal contre la Covid-19 et une meilleure espérance de vie des patients. Mais ce n'est pas un essai clinique, c'est une étude rétrospective. Ça veut dire que les scientifiques ont réexaminé les dossiers de patients déjà traités pour des cancers du poumon à petites cellules ou des mélanomes. Ils ont séparé ceux qui avaient reçu le vaccin ARN messager contre le SARS-CoV-2 et ceux qui ne l'avaient pas reçu pour comparer leur espérance de vie. Et résultat, au bout de 3 ans, le taux de survie a quasiment doublé chez les personnes vaccinées. Et cet effet n'apparaît pas avec d'autres vaccins comme celui de la grippe.
Et là, cet article, il est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'avec un ARN messager qui n'est pas du tout propre au cancer, puisque en fait, c'est un ARN qui va coder pour une protéine virale, eh bien, on a un effet adjuvant, c'est-à-dire un effet augmenté de notre immunothérapie qui est juste lié au fait qu'on injecte un ARN. Et on sait que les ARN, ils sont aussi des choses qui stimulent le système immunitaire. Ça, on le sait depuis longtemps, mais... c'est assez intéressant cette découverte parce que peut-être que juste un ARN bien encapsulé, comme il est reconnu par le système immunitaire comme quelque chose qu'il faut combattre et qui active l'efficacité de nos anticorps. Et on voit effectivement que quand les patients ont reçu leur vaccin anti-Covid dans les 100 jours après le début de leur traitement pour cancer, ont une meilleure survie au fil du temps que les gens qui n'ont pas été vaccinés. Alors, les défauts absolument structurels, c'est le biais de toute étude rétrospective.
Et oui, on l'a dit, ce n'est pas un essai clinique. Beaucoup de biais peuvent se glisser dans les résultats parce que les patients ne sont pas répartis au hasard entre vaccinés et non vaccinés. On observe donc une corrélation et pas une causalité. Certaines expériences ont été réalisées chez la souris dans une seconde partie de l'étude. Là, on voit vraiment un effet coup de fouet du système immunitaire quand on combine vaccin, ARN messager et immunothérapie. Mais ça ne remplace tout de même pas un essai clinique chez l'humain. Une telle étude n'aurait pas pu être menée en pleine pandémie pour des raisons évidemment éthique, impossible de ne pas vacciner l'un des groupes, mais maintenant, rien n'empêche de le faire, et pas nécessairement avec le vaccin contre le SARS-CoV-2. N'importe quel ARN messager encapsulé à peu près de la même façon pourrait jouer ce rôle de stimulant. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, pour améliorer l'immunothérapie, on cherche à être de plus en plus spécifique. On essaie d'apprendre au système immunitaire à reconnaître précisément, par exemple, les mutations propres de chaque tumeur. Là, c'est une méthode totalement généraliste. Si ces résultats étaient confirmés, on pourrait imaginer un jour un vaccin adjuvant, universel, en complément de toutes les immunothérapies.
Gaëlle, je voulais qu'on termine en parlant de votre fils. Il avait 7 ans lors de l'attentat, il va donc en avoir 18. Comment il a vécu ça et comment il va aujourd'hui?
C'est une grande question, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il va sur ses 18 ans, donc traverse son adolescence, donc c'est un peu une bombe à retardement. Il serait pas content du tout que je dise, mais c'est compliqué parce que je me sens impuissante et je sais que c'est une histoire qu'il porte effectivement depuis son enfance et qu'il a gardé bien au fond de lui, qu'il n'a pas encore verbalisé. Je me rends bien compte que il a grandi autour de ça et que ça a été vraiment très destructeur. Voilà, dans sa façon de l'exprimer aujourd'hui, c'est vraiment douloureux pour moi et vraiment c'est une forme d'impuissance de mais je pense que il va mûrir avec ça. Je lui laisse le temps. Là, il est vraiment dans autre chose. Il prépare son bac. J'essaye de me détacher. Après, je sais qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, c'est vraiment pas évident pour lui non plus. Donc, j'essaye de l'accompagner au mieux. Mais je sais qu'il souffre encore du regard que parfois on porte sur moi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui l'agacent. Mais il a quand même compris que de me faire opérer n'était pas mon métier.
Il sera... je vous le promets, très fière de vous un jour, pour merci. Tout ce que vous faites. Vous êtes incroyable. Merci infiniment d'être venu témoigner. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission, à Swat Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.